hommage au grand rabbin Ernest Gainsburger, 1876-1943. Grand rabbin de Genève, puis grand rabbin de Belgique, Ernest Gainsburger sera rabbin de Bayonne de 1930 à 1943. Figure singulière, Ernest Gainsburger est un homme d'action, prédicateur apprécié, historien, juriste, journaliste, conférencier. Il a laissé une abondante littérature et ses ouvrages d'histoire sur les Juifs du Sud-Ouest font toujours autorité. Homme engagé, résistant, il est mort à Auschwitz le 11 février 1943, victime de la barbarie nazie et du régime de Vichy. Un hommage lui a été rendu par la ville de Bayonne au Musée Basque de l'Histoire de Bayonne le 7 mars 2018 à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort et à l'occasion de la publication de son manuscrit inédit « Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française », manuscrit publié par les éditions Atlantica, précédé de l'hommage d'Anne Oukemanou intitulé « Ernest Gainsburger, un homme ardent et engagé ». Bienvenue à toutes et à tous pour cette quatrième et dernière partie de ce colloque hommage au grand rabbin Ernest Gainsburger. Nous allons entendre l'intervention du fils du grand rabbin, Philippe Gainsburger, président d'honneur du temple Buffo. Le titre de son intervention, Souvenir des années 1930-1940 à Bayonne. Intervention introduite par Anouk Emanou.
Donc Monsieur Gainsburger va évoquer de manière assez concise, nous l'espérons, sa vie à Bayonne, fils du grand rabbin, et donc quelques anecdotes autour de sa jeunesse à Bayonne et de la vie qui vient de me dire, alors que comme j'avais dit hier soir, je l'ai harcelé pendant des mois, et là il vient me dire la raison pour laquelle son père a sans doute quitté aussi Genève, c'était parce que sa femme voulait se rapprocher de Paris, parce que c'était compliqué de faire le voyage Genève-Paris. Gervaine Zivi était orpheline, il avait un frère qui était installé à Paris. Et donc, elle a poussé aussi son mari à partir à Bruxelles, parce que Bruxelles-Paris, c'était quand même plus simple au niveau des transports.
Ma mère avait donc demandé à mon père de revenir plus près de Paris. Il faut dire que ma mère avait, pendant la guerre, été infirmière ambulancière pendant toute la guerre. Et que j'ai encore ses diplômes à la maison. Une fois arrivée à Bruxelles, elle est tombée malade très rapidement, et mon père en 1929, donc après son décès en décembre 1928, a préféré quitter la Belgique. Et il faut voir aussi pourquoi il est devenu grand rabbin. S'il était à Héricourt et il suivait tranquillement les cours primaires de l'école d'Héricourt. Et l'instituteur a dit à mon grand-père, écoutez, ce garçon est très intelligent et comprend rapidement, il faut en faire un rabbin. Donc, mon grand-père a dit, puisqu'il faut en faire un rabbin, on va l'envoyer à Paris, au Talmud Torah, et après le Talmud Torah, il passera ses diplômes successifs pour être d'abord rabbin, puis ensuite grand rabbin. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir deux doctorats pour passer de rabbin à grand rabbin. Une fois installé à Bayonne, avec une tradition qui était la tradition ashkénaze. Donc il a fallu qu'il apprenne la tradition portugaise, ou espagnol-portugaise. Et c'est le commandant Pereire, qui était très connu dans la communauté pour avoir fait la guerre du Tonkin, qui lui a appris tous les airs portugais ou hispano-portugais de Bayonne. Alors il faut dire qu'il y a trois synagogues hispano-portugaises, dites les 3B, Bayonne, Bordeaux et Buffault. Sachant aussi que à Buffault, les femmes ne sont pas situées du même côté que les hommes. À Bayonne et à Buffault, les dames sont sur le côté droit, alors qu'à Bordeaux, elles sont sur le côté gauche. On n'a jamais su d'ailleurs pourquoi. Ici, il faut aussi se rendre compte des constructions des synagogues. Les synagogues judéo-hispano-portugaises ont une théba, c'est-à-dire l'endroit où se place le ministre officiant, à peu près au centre des fidèles. Alors que dans le rite ashkénaze, la même chose d'ailleurs qui se produit à Biarritz, le ministre officiant est juste devant la théba. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes d'audition parce que les synagogues ont été construites pour que quand on parle dans le centre, tout doucement, on entend très très bien dans tout l'édifice. Alors que quand le ministre officiant est passé juste devant la théba, sa voix se réfléchit sur la théba et on comprend que la moitié de ce qu'il dit. Une fois installé à Bayonne, mon père a appris relativement rapidement les airs. Et il faut aussi se rendre compte qu'à mesure que le temps passe, les judéo-hispano-portugais ont tendance à disparaître. Petit à petit, l'espagnol disparaît des prières. Alors qu'à Bayonne, quand j'étais à Bayonne, il y avait beaucoup de prières en espagnol, en particulier les aftarot d'Ab, alors que maintenant, à Paris, personne à Buffault n'est capable de faire ou de lire, même pas de les lire, de lire les aftarot en espagnol. En ce qui concerne aussi les constructions, la synagogue de Lausanne et la synagogue de Buffault, c'est ainsi que celle d'Arcachon d'ailleurs, ont été construites grâce au don de M. Osiris Ifla. Et c'est pour ça qu'elles se ressemblent un petit peu. Celle d'Arcachon est d'ailleurs toute petite, et celle de Buffault relativement beaucoup plus grande. Maintenant, on peut, pour finir, parler de ce qui se passe pour tous les juifs dits Maran, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, et qui sont donc restés en Espagne et au Portugal en se disant catholiques et en pratiquant en secret le judaïsme. Ce qui fait que notre concierge à Paris, elle s'appelle Madame Pedrosa. Cette Madame Pedrosa, c'est une Portugaise. Et elle nous a expliqué que sa grand-mère, à Pâques, elle faisait le ménage complet et elle nettoyait complètement sa maison pour qu'il n'y ait plus de pain. Et on se rend compte comment petit à petit, le judaïsme hispano-portugais dans ces pays a disparu. Sachant que c'est en 1954 seulement que l'ORM sur l'Espagne a été levé parce que le roi d'Espagne a supprimé le décret d'Isabelle la catholique. Ça a pris quand même quelques années, hein. Et donc les Juifs n'avaient pas le droit de rentrer en Espagne. Ils le faisaient un petit peu au passage, mais il n'y avait pas d'installation juive en Espagne. Et c'est maintenant le judaïsme espagnol a tendance à se développer parce que là en Afrique du Nord, beaucoup de Juifs marocains et algériens qui parlaient encore espagnol parce qu'ils venaient d'Espagne. Ils parlaient encore espagnol, moitié français, moitié espagnol. À Buffon, on en a connu un certain nombre, parce que tous ces gens-là, petit à petit, ils se sont adaptés à la religion catholique, mais ils pratiquaient le judaïsme en secret. Enfin, la partie un peu cachée du judaïsme. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Après cette intervention du fils du grand rabbin Ernest Ginsburger, Philippe Ginsburger, voici le mot de conclusion d'Anne Oukemanou.
Donc cet ouvrage m'a été remis il y a quelques années par monsieur Philippe Ginsburger, le manuscrit, plus un autre manuscrit qui m'a permis de compléter celui dont il manquait un certain nombre de pages. Je voulais dire par rapport à cet ouvrage, je veux dire que c'est toujours compliqué de présenter un ouvrage parce que c'est aussi raconter des rencontres. Rencontre avec Monsieur Ginsburger, Monsieur Philippe Ginsburger, rencontre avec Monsieur Bernard Ginsburger, Madame Schlanger, la petite fille du grand rabbin, qui m'a fourni toute une série d'archives photographiques et qui s'est découvert une passion pour les archives. Donc je veux dire, c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué. Mais enfin, l'ouvrage que certains d'entre vous ont acquis est composé de deux parties, en fin de compte. La première est une biographie intitulée « Ernest Ginsburger, un homme ardent et engagé ». Je vais dire pourquoi j'ai utilisé le mot « ardent ». Quand Ernest Ginsburger est arrivé à Bayonne, sans concours, ce qui était tout à fait étonnant, puisqu'on a dit en Suisse, il a été recruté sur concours, en Belgique, il a été recruté sur concours, à Bayonne, sans concours. Et, en fin de compte, les membres du consistoire de l'époque, en particulier le président du consistoire, Millot, qui dit, écoutez, nous, il nous faut un rabbin ardent. Et j'ai trouvé que le terme était ardent, ça voulait dire quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui va réveiller la communauté. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce terme dans l'intitulé de ma biographie. Et la seconde, qui est précédée d'une préface, dans laquelle j'explique l'histoire éditoriale de ce manuscrit, qui est assez compliquée. Et qui s'est heurté à un moment donné, Ginsburger voulait publier sous code d'auteur, après plus. Enfin, disons que c'est une histoire et qui effectivement se terminera par son arrestation et le manuscrit qui restera en sommeil. Et cette monographie historique qui a été rédigée dans les années 30, grosso modo, qui utilise vraiment la méthode historique, c'est-à-dire que Ginsburger a multiplié les sources. Vous verrez qu'il utilise bien sûr les archives de Bayonne, mais aussi les archives des Basses-Pyrénées, les archives des Landes, les archives du Gers, les archives de Gironde. Donc un travail colossal d'archiviste et Et il le rédige une grande partie dans les années 30 et il le réécrit d'une certaine façon dans les années, en 1940-1941. Et c'est pour ça que, en fin de compte, il y a deux manuscrits vraiment, une partie un peu tapuscrite, d'autres vraiment manuscrites. Et j'ai combiné les deux pour pouvoir enrichir les chapitres où il y avait des pages manquantes. C'est cet ouvrage, Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française. C'est un ouvrage essentiel dans l'historiographie des Juifs de Bayonne. Et aussi dans l'historiographie des Juifs de France. Dans la mesure où, comme je l'ai dit souvent, c'est le chaînon manquant entre le livre ancien que Gainsburger éreinte pas mal dans un certain nombre de pages, le livre ancien d'Henri Léon, Histoire des Juifs de Bayonne, qui était paru en 1893. Et puis les travaux, et en particulier les travaux de Gérard Mahon, dont M. Veil a parlé tout à l'heure, autour des communautés séfarades du Sud-Ouest, les travaux de Gérard Mahon, les travaux d'Anne Zinck, et puis les miens pour le 19e siècle. Voilà. Donc, il décrit dans cet ouvrage la communauté juive de Bayonne des 16e au 18e siècle, avec ses syndics, ses rabbins, ses écoles, ses chicaneries, bref, une communauté vivante. Et il relate, il explore aussi toutes les activités économiques des marchands portugais, activités extrêmement nombreuses et dynamiques, et il relate enfin les relations à travers tout le système d'imposition extrêmement compliqué dans la circonscription de Bayonne, les relations très difficiles et très souvent conflictuelles avec l'environnement chrétien, que ce soit avec le corps de ville de Bayonne, qui est en fait une sorte d'institution concurrente aux marchands portugais, et avec aussi le clergé de Saint-Étienne et de Saint-Esprit. Donc, c'est un ouvrage d'historien avec méthode, rigueur intellectuelle. Et ce que je voudrais dire, c'est que, alors que, comme m'a dit Jean Logal, mais vous avez effectué un travail de bénédictin, ce que j'ai rédigé tout de suite en disant travail de bénédictine, vous avez effectué un travail de bénédictin. Et effectivement, ça m'a pris du temps. Mais lors de la transcription, j'ai souvent ri et j'ai souvent souri, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Et lisez cet ouvrage. Voilà.
Je peux encore dire deux petits mots. Il faut voir que on n'a pas cité le livre de mon père sur le Saint-Esprit pendant la Révolution, qui a été reproduit par Monsieur Urmat, qui faisait partie de la Société des Sciences et Lettres de Bayonne. C'est un ouvrage très important qu'on peut encore retrouver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est absolument scandaleux que l'ambassade de France n'ait pas détruit ses documents. Quand la guerre a éclaté, ils avaient largement le temps de les brûler. Il faut voir que quand les Iraniens ont attaqué l'ambassade des États-Unis à Téhéran, les Américains ont brûlé immédiatement leurs archives pour que les Iraniens ne puissent pas y trouver motif à attaquer ceux qui étaient les partisans des Américains. Et le troisième point, c'est que mon père était assez souffrant quand il a été transféré de Compiègne à Drancy. À Compiègne, deux personnes ont fait des bas-reliefs en plâtre que nous possédons encore. Un, c'est chez mon fils, l'autre chez moi. Et ensuite, quand il a été à Drancy, il a dit qu'un convoi devait partir. et il a dit à un des infirmiers, voilà, je vous donne ma montre et ma bague, et moi, je ne laisserai pas partir un convoi sans rabbin. Et c'est pour ça qu'on a récupéré, parce que la personne qui avait reçu la montre et la bague n'a pas été déportée, restée à l'infirmerie d'Annecy. C'est pour ça que mon père a disparu, sinon il aurait survécu à la guerre de 40.
C'est avec cette intervention de Philippe Gainsburger, fils du grand rabbin Ernest Gainsburger, que s'achève la retransmission donc de cet hommage, de ce colloque au grand rabbin Ernest Gainsburger, qui a été rabbin de Bayonne de 1930 à 1943. Signalons que le manuscrit du rabbin Ernest Gainsburger intitulé « Les Juifs de Bayonne des origines à la Révolution française », manuscrit précédé de la biographie introductive d'Anne Oukemanou, est disponible aux éditions Atlantica. Hommage au grand rabbin Ernest Gainsburger, 1876-1943. Grand rabbin de Genève, puis grand rabbin de Belgique, Ernest Gainsburger sera rabbin de Bayonne de 1930 à 1943. Figure singulière, Ernest Gainsburger est un homme d'action, prédicateur apprécié, historien, juriste, journaliste, conférencier. Il a laissé une abondante littérature et ses ouvrages d'histoire sur les Juifs du Sud-Ouest font toujours autorité. Homme engagé, résistant, il est mort à Auschwitz le 11 février 1943, victime de la barbarie nazie et du régime de Vichy. Un hommage lui a été rendu par la ville de Bayonne au Musée Basque de l'Histoire de Bayonne le 7 mars 2018 à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort et à l'occasion de la publication de son manuscrit inédit « Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française », manuscrit publié par les éditions Atlantica, précédé de l'hommage d'Anne Oukemanou intitulé « Ernest Gainsburger, un homme ardent et engagé ».